Religion du monde, Geneviève Delrue.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et nous ouvrons cette nouvelle année avec un sujet qui parle à une large partie de l'humanité, croyants et non-croyants, la Bible. Nous allons nous pencher avec nos invités sur la première partie de la Bible et ses cinq grands livres, la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome, qui constituent la Torah pour les Juifs et le Pentateuque chez les chrétiens. Les écrits bibliques n'ont pas tout dit. Leur lecture jamais achevée recèle des interprétations sans fin. Et c'est de l'échange entre un des grands spécialistes de la Bible hébraïque, Thomas Römer, administrateur du Collège de France, titulaire de la chaire Milieu biblique, et Frédéric Boyer, écrivain et éditeur, qui a dirigé en 2001 chez Bayard le grand chantier de la nouvelle traduction de la Bible, qu'est né le livre « Une Bible peut en cacher une autre, le conflit des récits » publié chez Bayard. Thomas Römer et Frédéric Boyer, bonjour.
Bonjour.
Et merci pour votre présence dans ce studio. Alors on pourrait penser que deux spécialistes de la Bible et qui se connaissent bien, c'était tout dit, Thomas Römer.
Ah, c'est jamais trop dit.
Parce que...
jamais trop dit, parce que la Bible, c'est sans fin. C'est une histoire sans fin, parce que c'est pas simplement un livre, c'est toute une collection de livres. Certains parlent d'une bibliothèque, c'est peut-être pas le terme exact. Mais l'idée, c'est en effet de montrer que même si on parle de Bible, il faut déjà savoir de quelle Bible on parle. Les
Absolument.
Juifs n'ont pas les mêmes Bibles que les protestants, que les catholiques, les orthodoxes. Donc chacun a un peu sa Bible qu'il définit un peu à sa manière. Et ce n'est pas forcément toujours les mêmes livres. Mais même à l'intérieur de ces différents livres, qui sont la Bible ou les Bibles, on trouve des grandes différences. Et ce que nous avons voulu faire, c'est de mettre un peu en évidence ces différences qui sont déjà à l'intérieur, en fait, des textes bibliques.
Les différences, les contradictions, et puis effectivement, ces séquelles, en quelque sorte, de toutes ces écritures successives.
Oui, ce qui est passionnant, ce qui est fascinant, c'est que les textes bibliques, ils n'ont pas en effet occulté les traces des différents strates. Donc on peut très bien voir, un peu comme un archéologue, comment ces textes sont construits. Mais il n'y avait pas quelqu'un à la fin qui a dit, bon, tout ce qui est contradiction, on va lisser. On a laissé un peu les choses un peu étonnantes, enfin même contradictoires, comme vous l'avez dit.
Frédéric Boyer. On n'a jamais tout dit sur la Bible. Il faut la lire, la relire.
Non. On n'a jamais tout dit. Mais bon, d'abord, moi, je ne me considère pas comme un spécialiste de la Bible, hein, comme Thomas. Hein, le spécialiste, c'est Thomas. Mais moi, j'ai un intérêt. Non, mais moi, j'ai depuis longtemps un intérêt, effectivement, pour la lecture biblique. Et pour la Bible, effectivement, comme littérature, mais Thomas aussi d'ailleurs, mais j'emploie le mot littérature au pluriel d'ailleurs, parce qu'il y a plusieurs littératures dans la masse biblique. Et effectivement, ce qui était intéressant, c'est ce qu'on a essayé de faire entre nous, c'est de discuter effectivement du statut de cet ensemble de livres. Voilà. Alors, comment ça s'est constitué, sur quels critères on a pu choisir ces livres, les distinguer, et on a essayé de désigner quelques grandes questions autour desquelles on voit apparaître ce dont parle Thomas, c'est-à-dire des différences, des répétitions, des écarts, des contradictions parfois. Mais tout de suite, ce qu'il faut dire, c'est que... Alors, est-ce que ça a été volontaire? De fait, on peut dire oui, en tout cas qu'il y a eu une intention. Et c'est cette intention qu'on a voulu mettre en évidence, en fait. C'est que de quelle intention s'agit-il? Pourquoi on a raconté plusieurs fois tel et tel récit? Pourquoi tel personnage, on a gardé comme les cicatrices des différentes traditions qui ont... Eh bien, parce que, en fait, ce livre et ces livres, et c'est aussi pour ça qu'il y a plusieurs canons et donc qu'il y a plusieurs Bibles, ces livres s'adressent toujours à notre interprétation. C'est-à-dire, on doit faire, soit une communauté, soit un individu, soit un lecteur, doit faire l'effort d'interpréter. Et le livre permet, à partir du moment où il a gardé ses différences, ses écarts, ses contradictions, il impose que l'on interprète pour que l'on puisse recevoir ce qu'on appelle le livre biblique. Quoi.
Alors, la Bible, quelques repères, elle s'est constituée sur combien de... d'années, j'allais dire. Alors, on est très loin. Quel âge la Bible a-t-elle?
La Bible est là au moins, disons. La Bible fixe est là, peut-être 1600 ans, parce que jusqu'à ce qu'on a mis une décision finale sur les livres du Nouveau Testament, qui est donc la partie chrétienne de la Bible, il faut attendre quand même l'an 400 de l'ère chrétienne.
Alors, dans ce livre, hein, une Bible peut en cacher une autre. Vous avez fait effectivement le choix de, voilà, de mettre le focus sur quelques-uns des grands textes fondateurs, hein, de la Torah. Donc, la Torah, donc, ce que les chrétiens appellent le Pentateuque, c'est-à-dire les cinq premiers livres de la Bible. Alors, moi, je m'arrêterai d'abord, bien sûr, dans l'ordre chronologique, sur la Genèse. Et là, la Genèse, avec cette quand même grande interrogation. Pourquoi deux récits? Pourquoi Genèse 1? Pourquoi Genèse 2? Voilà, pourquoi ces deux récits sont restés l'un à côté de l'autre?
C'est justement ce qu'on voudrait mettre en évidence. Il y a deux manières de raconter l'origine de l'homme, aussi la condition humaine. Le premier, c'est peut-être un peu plus paisible. Le deuxième, un peu plus conflictuel. Le premier dit quelque chose sur l'homme et la femme, ce qui est intéressant parce que quand Dieu dit « on crée l'homme à notre image », il faut te dire « on crée l'être humain à notre image », et c'est tout de suite « homme et femme ». Donc, on pourra même dire que Dieu est à la fois mâle et femelle, puisque hommes et femmes sont créés à son image. Et puis dans le deuxième récit, c'est un peu plus compliqué. Il y a un être humain qui s'appelle Adam, dont on ne sait pas très bien quelle sexualité a, peut-être aucune, parce qu'il est tout seul au début, donc c'est très très différent. Et c'est seulement à la suite quand Dieu se rend compte, en fait, Dieu est parfois un peu bricoleur dans ses textes. Il ne sait pas toujours très bien ce qui arrive à ce qu'il fait. Il crée un être et il se dit, mais ce n'est pas bien que cet être soit seul.
Il s'ennuie.
Et, première création, c'est quand même un peu bizarre, il crée les animaux. Et puis bon, cet être humain est moyennement content, je pense. C'est une manière quand même de montrer aussi le lien qui existe quand même entre l'humain et l'animal. Mais ensuite, et ça c'est intéressant de regarder le texte près, parce qu'on dit souvent « la femme est prise de la côte d'Adam ». Mais Adam, à ce moment-là, il n'a pas encore d'identité. C'est juste l'humain, celui qui est tiré du sol.
Adam, ça veut dire argile, c'est ça?
Oui, c'est-à-dire Adama, c'est le sol, c'est l'argile, et puis Adam, c'est celui qui est tiré du sol. Et donc, on dit souvent, et ça c'est en fait un peu une mauvaise traduction, que Adam est donc l'homme et la femme est tiré de son côte. Alors, quand on regarde le texte hébreu, c'est différent parce que Dieu fait tomber une sorte de sommeil pour faire une sorte d'opération chirurgicale. Et puis, qu'est-ce qu'il fait en fait? Il prend le côté, c'est-à-dire un côté. Donc, en fait, il scinde cet Adam en deux. Et c'est seulement à ce moment-là que le texte, deuxième récit, parle de Ish et Isha, de homme et de femme. Donc, en fait, c'est une autre manière de parler de la complémentarité et aussi de quelque chose qui est advenu. Et évidemment, après, il y a toute l'histoire de la sortie ou de l'expulsion du jardin qui dit quelque chose sur la condition humaine.
Alors effectivement, avant de parler de la faute première et de la sortie du jardin, Frédéric Boyer, ça n'est pas évoqué bien sûr dans votre livre, mais le fait qu'on puisse, que ce récit donc d'une femme sortie de la côte, en tout cas la traduction, hein, de la côte d'Adam, donc d'un homme, est-ce que ça a pu jouer dans la condition de la femme? C'est une question qui n'est pas posé, enfin que j'ai jamais vu poser. Est-ce que ça peut jouer?
Alors, on en parle maintenant de plus en plus, et bien sûr, et là c'est une question intéressante sur la question des traductions, c'est-à-dire que ce type de traduction où effectivement on a dit la femme est tirée de l'homme, bien sûr qu'elle avait un sens, le sens de montrer que le sexe féminin est assujetti au sexe masculin, bien sûr. Et alors, je ne sais pas si ça a été fait vraiment volontairement exprès, mais en tout cas, l'inconscient des traducteurs a parlé, là.
Les féministes ne se sont jamais élevés contre cela?
Si, je crois qu'il y a eu... D'abord, il y a eu des lectures féministes de la Bible,
sûr,
effectivement.
Ouais.
Et, mais ce qu'il faut dire, c'est que cette question, elle se pose très tôt, puisque même les rabbins dans le Talmud s'interrogent sur ce côté. Et c'est eux qui disent, mais en fait... le mot hébreu peut signifier, plutôt que la côte, peut signifier le côté, à côté d'eux. Voilà, donc c'est-à-dire que, comme l'a dit Thomas, l'idée c'est plutôt qu'il y a cet être seul, solitaire, unique, et on en fait deux côte à côte. Voilà, c'est d'un seul. Donc effectivement, et les traductions, bien sûr, peuvent avoir des influences politiques, idéologiques et culturelles. Et là, c'en est une. Ensuite... ces deux récits, qui ne sont pas tout à fait effectivement deux récits de création d'ailleurs, mais ces deux récits viennent parce que les questions se posent quand on les écrit, quand on les raconte, quand les traditions orales devaient raconter ces textes-là. D'autres questions viennent. vous commencez à raconter la création un peu sur le modèle de mythe babylonien. Voilà, donc il y a du désordre, il y a du chaos, et puis la divinité arrive et elle va séparer tout ça, distinguer tout ça, créer un monde harmonieux. Voilà, et on place l'humanité au cœur de ça. D'ailleurs, là aussi, c'est un sens politique. Hein. Alors, il faut noter que le régime alimentaire est végétarien dans ce premier récit. C'est-à-dire, il ne mange que des herbes, du végétal, mais et tout le monde, même les animaux. Donc, on a tout est en place. Et finalement, il manque quelque chose. Voilà, parce que c'est un récit utopique. Mais ceux qui écrivent et qui parlent ces récits-là, ils sont en guerre, ils travaillent, ils meurent. Donc, il faut bien qu'ils racontent quelque chose. Donc, ils vont re-raconter pour faire apparaître leur réalité. Quoi, voilà. Et c'est pour les interpréter. Plus la question que pose Thomas dans le livre très très bien, c'est cette question de la distinction, et qui est une vieille distinction dans toute la culture humaine, entre humanité et divinité.
Thomas Romer.
Oui, c'est là où on arrive au récit, ce qu'on appelle parfois le péché originel, donc l'expulsion du jardin, qui était aussi lu suite à une certaine interprétation qui, à mon avis, n'est pas la bonne, où on a dit, en fait, c'est la faute de la femme que le péché est entré dans le monde. Première chose qu'on doit voir, c'est quand on regarde le texte, on ne parle jamais de péché. Et le serpent, qu'on a identifié ensuite au diable, ben les serpents, c'est un animal créé par Dieu. Et donc, on a l'impression qu'il vient même un peu de la part de Dieu. Parce que qu'est-ce qu'il fait, l'animal ? Il pousse, en fait, la femme, qui a d'une certaine manière un rôle plus actif que l'homme. L'homme fait simplement, il exécute ce que la femme lui dit. Tiens, tu prends, tu manges. Donc, l'idée derrière ce texte, c'est, il y a certes une transgression, mais ça veut dire aussi quelque chose sur la liberté humaine. C'est-à-dire, ce couple, il peut transgresser les ordres de Dieu. Ce n'est pas créé comme des marionnettes. Ils ont cette liberté de transgresser. Et cette liberté, en fait, ils les emploient. Et ce qui en résulte, c'est que seulement après avoir mangé de ce fruit, ils se rendent compte qu'ils sont différents au niveau de leur sexualité. Et c'est seulement quand ils sont dehors du jardin qu'ils commencent à coucher et produire la première génération post-Adam et Ève. Donc la sortie du jardin, c'est en fait une nécessité. C'est une transgression, certes, mais ce n'est pas le péché originel. C'est une réflexion sur le fait que les hommes et les dieux, ils ne peuvent pas cohabiter. Il faut que chacun a son espace. Et on va voir petit à petit, après le déluge, Dieu est dans le ciel, il n'est plus dans le jardin. Donc c'est aussi une réflexion que la terre maintenant, elle appartient aux humains. Et il faut, si on prend le premier récit, qu'il le gouverne. Et Dieu, Dieu est en haut et puis il surveille un peu les choses, mais il laisse quand même une liberté à ses humains. C'est aussi une tradition juive qui dit que Dieu, une fois qu'il a créé le monde, il se retire.
Il se retire, absolument.
Et l'homme est en fait l'image de Dieu sur Terre.
Ça, c'est l'expression effectivement de la liberté. Mais Frédéric Boyer, quand même, une explication sur l'arbre de la connaissance. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance. A priori, quand même, manger l'arbre de la connaissance, non, c'est une bonne chose.
D'abord, c'est toujours question de traduction. C'est-à-dire que le mot connaissance convient pas très bien, d'ailleurs. Littéralement, c'est l'arbre de l'expérience de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. C'est l'arbre de l'expérience, en fait, de la saveur. D'ailleurs, le texte biblique dit « c'est une vision appétissante ». Et donc, il est question de quoi ? Il est question de transgresser, certes, mais donc il est question de désir, d'appétit. Donc, il est question de vie. Il est question, effectivement, c'est exactement ce que dit Thomas. C'est-à-dire que le couple humain est en position de désirer, de vivre par lui-même et d'avoir une appétence. Et donc, cet arbre-là, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il représente. Voilà. Ouais. Alors oui, il y a transgression, mais même, c'est une transgression vitale.
Ils n'avaient pas le choix. C'est la façon dont ils ont été créés aussi. C'est la conséquence de leur création.
Non, mais on peut dire Dieu les pousse quelque part.
Et Dieu
les pousse.
Oui, ouais.
Et puis ce qui est intéressant par rapport à la connaissance, quand on dit que Adam couche avec Ève, c'est la même racine en hébreu. On dit Adam connu Ève. Donc c'est l'expérience de la sexualité aussi. Et la connaissance finalement, c'est aussi ça. Parce que dès qu'ils ont mangé le fruit, qu'est-ce qu'on dit ? Ils connurent. Mais qu'est-ce qu'ils connurent ? Qu'ils étaient nus. Et donc là, la nudité, puis la différence sexuelle. Donc ce n'est pas une connaissance abstraite ou intellectuelle. C'est un peu prendre connaissance ou conscience de la condition humaine.
C'est l'expérience humaine.
Voilà, exactement.
L'expérience humaine.
Et comme l'a dit Thomas, le mot faute, le mot péché, n'est pas dans ce texte-là. Il n'apparaît qu'avec Caïn et Abel. C'est la première occurrence du mot qu'on va traduire par péché et faute apparaît dans Caïn et Abel, mais pas dans ce fameux récit dont on dit que c'est le récit du péché originel. En fait, il n'y a pas le mot péché.
Avec toutes les conséquences.
Il y a eu pas mal de grosses
conséquences. Très grosses conséquences de cette conception du péché originel. Oui, vous dites, Frédéric Boyer, que ça apparaît au moment de Caïn et Abel, avec le meurtre.
Avec le fratricide.
Avec le fratricide, donc, de voilà,
qui est Caïn qui est la première faute, en fait, effectivement. Enfin, désignée comme faute, Abel. et on le raconte dans l'île, ça pose quelques problèmes à Dieu, puisque il est devant cette faute qui a été commise, et c'est Dieu qui reconnaît que c'est une faute. Hein. C'est dans la parole de Dieu que l'on dit qu'il y a faute, qu'il y a péché, et Dieu va devoir faire avec cette faute aussi. Il va devoir dire, bon, ben, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pardonne? Est-ce que je punis? Est-ce que je laisse faire la vengeance? Jusqu'où? Voilà.
Et en fait, qu'est-ce qu'il fait, Dieu?
Il fait deux choses. D'abord, et là aussi, on retrouve son rôle un peu de bricoleur. La première chose, il dit, qui te tuera sera vengé cette fois. C'est-à-dire que...
Ça veut dire quoi?
C'est la vendetta. C'est-à-dire, c'est la loi de la vendetta clanique. Si quelqu'un te tue, ben, moi, j'en tue sept. Voilà. Mais après, Dieu dit... Parce que tout d'un coup, le récit dit, mais Dieu fait un signe sur le front de Caïn pour que personne ne le touche, que personne ne l'atteigne. Donc c'est comme si finalement on annulait la vendetta, enfin c'est pas comme si, on annule...
On la prévient, la vendetta, on la prévient.
Et voilà, on laisse ce statut à Caïn d'avoir fauté, d'être un criminel, un assassin, mais de lui permettre de continuer à vivre en communauté. Oui. Et de fonder quelque chose.
Et c'est Caïn qui devient le fondateur de la civilisation. Donc, c'est quand même intéressant.
Vous voulez dire un criminel, c'est ça?
Pas un criminel, ou c'est une manière peut-être, c'est peut-être une lecture trop freudienne, mais c'est la civilisation comme moyen un peu de contrôler la violence et de la contenir. Parce qu'on pourra aussi dire comment Caïn, il sait qu'il ne va pas tuer. La loi n'est pas encore donnée. Donc, du coup, il y a toute une réflexion, je dirais aussi, sur violence et société. Et toute la descendance de Caïn, elle va inventer la métallurgie, la musique, tout ça. Donc, on est des descendants de Caïn, en fait.
Vous écoutez Religion du Monde, nos invités sont Thomas Romer et Frédéric Boyer pour leur livre « Une Bible peut en cacher une autre, le conflit des récits » et c'est publié chez Bayard. Alors on poursuit avec la Genèse. La fabrique plurielle d'Abraham, c'est votre chapitre 2 pour aborder le personnage d'Abraham. Thomas Romer.
Oui, parce qu'Abraham, c'est un ancêtre à multiples visages. Donc,
Père des nations.
Voilà, père des nations, le croyant exemplaire. Donc tout le monde a en tête le sacrifice d'Abraham, où Abraham exécute sans discussion aucune la volonté divine.
Oui, on va y revenir.
Et ensuite, on a un Abraham qui négocie avec Dieu, qui dit « mais en fait, tu veux détruire Sodome et Gomorre ?» Alors, s'il y a des justes là-dedans, c'est toi le juge de toute la terre. Alors, c'est quoi comme justice? Donc là, il y a un Abraham qui s'oppose même à Dieu.
Subversif,
même contestataire d'une certaine manière. Et après, il y a un Abraham un peu faucheton aussi. Quand il va en Égypte, il va dire à Sarah, écoute, c'est mieux que tu dises que tu es ma sœur. Comme ça, je suis tranquille, on ne va pas me tuer.
Il est lâche, là.
Il est un peu douteux, au moins.
Et de ce fait, Sarah couche avec Pharaon.
Elle couche avec Pharaon, voilà. Couche avec Pharaon. Et curieusement, tout à coup, on apprend qu'elle est stérile. Donc, peut-être pour dire, l'enfant qui va naître, ce n'est pas égyptien. Quoi. Donc,
il fallait bien qu'il y ait une garantie.
Abraham, c'est très, très fascinant parce qu'il y a tellement d'expériences du visage aussi derrière cet ancêtre. Donc, de le caractériser d'un seul trait, bon, on dit, c'est l'ami de Dieu, c'est le père des nations, mais il y a beaucoup plus de choses, en fait. beaucoup plus haut. Bah, justement, c'est Abraham qui reflète aussi un peu, je dirais, des expériences humaines face à un danger, face à une situation de crise. On n'est pas forcément toujours très héroïque.
C'est pas un surhomme.
C'est pas toujours un surhomme. Mais d'ailleurs, toutes les figures bibliques, d'ailleurs, il y a, si vous prenez Moïse, vous prenez David, vous prenez Salomon, vous prenez les prophètes, il n'y a jamais quelqu'un qui, voilà, qui comme ça a un idéal d'humanité. Ils ont tous un peu des côtés un peu plus sombres. Et ça, je pense aussi, ce qui est très bien dans la Bible, il nous reflète un peu ce que nous sommes nous aussi. Quoi.
Frédéric Boyer, quel est le Dieu qui se révèle à Abraham?
Si je le savais. Non, alors, ce Dieu se révèle à Abraham, il se révèle assez brutalement, hein, puisque on a tous ces 11 récits là, qui vont de la création jusqu'à la tour de Babel, et soudain on a ce petit personnage qui apparaît, comme un petit personnage de roman quand même, enfin, si on pousse un peu, mais en tout cas, c'est pas Noé, c'est pas Adam, c'est un personnage qui va avoir une vie et qui va connaître une odyssée. Alors c'est assez brutal, une voix lui dit, qui est la voix divine, lui dit va-t'en, quitte tout, pars, et il part, voilà. Et là, il y a toute une série de pérégrinations et d'aventures qui sont sûrement une espèce de collage et de montage de plusieurs traditions et qui vont faire que ce petit personnage va avoir affaire avec cette divinité. Des choses parfois assez terribles, hein, puisque effectivement il va devoir même accepter de sacrifier son fils apparemment.
Alors, avant de parler effectivement du sacrifice d'Isaac, quelles sont les influences à ce moment-là qui vont effectivement marquer les narrateurs, Thomas Sommer?
C'est un peu les expériences qu'ont pu faire les auteurs, donc mettons du 7e, 6e, 5e siècle avant l'ère chrétienne. L'Égypte, c'est un pays qui est toujours présent dans le Proche-Orient ancien. Parfois, on y va pour s'y réfugier. Parfois, on a un peu peur parce qu'ils dominent quand même. Et puis, ils vont chercher des soldats, des esclaves, etc. Donc, derrière l'histoire Abraham chez le pharaon, il y a toute cette relation difficile avec l'Égypte. Après, Abraham devient aussi un peu celui qui vient d'un pays lointain, Babylonie, mais c'est aussi l'endroit où se trouve, après la destruction de Jérusalem en 587, une partie des Judéens qui deviennent en fait ce qu'on appelle la Gola, en fait les exilés à Babylone. Donc le retour d'Abraham, c'est peut-être aussi une sorte de symbole pour un appel aux exilés de rentrer dans leur pays. Et le fait qu'ils retournent tout de suite en Égypte, c'est aussi peut-être un peu une vision de dire, c'est vrai, la vie dans le pays est compliquée, d'autant plus que les Babyloniens avaient quand même rasé pas mal de choses, donc c'est pas très, très fertile, mais vous avez y à rester et puis vous débrouillez parce que c'est l'ordre divin. Donc il y a peut-être aussi toutes ces discussions à ce moment-là.
Oui, Frédéric Boyer, oui.
Non, mais c'est intéressant ce que vient de dire Thomas, parce que ça explique un peu le sens de ce livre et puis surtout des travaux comme ceux de Thomas et d'autres. Effectivement, c'est là, on est en train de nous expliquer qu'un texte très ancien, qui est un texte à bien des égards un peu mythologique, enfin, qui raconte donc la constitution d'un héros, d'un grand personnage, qui va devenir un personnage fondateur, effectivement, dans toute la mémoire méditerranéenne. Mais on raconte finalement, ces textes ont probablement été écrits par des gens qui étaient en exil, puis ont quitté l'exil. Et donc, dans ce texte du personnage fondateur, ils font passer leur propre histoire. Ils font passer leurs propres expériences. Donc, effectivement, d'où la présence peut-être de l'Égypte et du fait qu'Abraham passe en Égypte et que finalement, ça se passe plutôt bien, même si c'est un peu compliqué. Mais il n'est pas, par exemple, Abraham n'est pas du tout puni par le pharaon. Il est simplement chassé et il a le droit d'emporter toutes ses richesses. Voilà. Et effectivement, il traverse cette terre qui lui est donnée, qui lui est promise, et en même temps il ne s'y installe pas vraiment, donc c'est ça qui est vraiment passionnant. C'est quand on étudie l'histoire de ces textes, c'est de voir comment l'histoire des rédacteurs, des communautés qui ont adopté ces textes en quelque sorte, qui les ont compilés, qui les ont montés en texte et en bibliothèque, ben c'est leur histoire aussi qui a conditionné la réception de ces textes.
Alors, le sacrifice d'Isaac, ça reste toujours incompréhensible Alors c'est intéressant parce que pour les musulmans, Abraham est le premier soumis, oui, le premier soumis à Dieu, qui accepte l'idée de sacrifier son fils chéri. Ça paraît incompréhensible, toujours.
Ah bah ça paraît, je pense, c'est vrai, aujourd'hui peut-être plus que jamais, oui, quand on lit ces textes, oui, mais on le fait aussi remarquer dans le livre,
tout
ça a toujours en effet provoqué des contestations ou des interprétations. On parle, je crois, de Kafka.
Oui,
on
Kafka
parle,
qui dit,
c'est comme un garçon de café qui s'empresse
à accomplir
l'ordre qu'on lui donne. Après Kant qui dit, bah, si quelqu'un vous donne un ordre comme ça, vous êtes sûr que ce n'est pas Dieu, parce que Dieu ne peut pas demander, oui, ça. Et Kierkegaard qui dit, mais les ordres de Dieu, ça transcende toute considération morale et éthique. Donc il y a différentes manières de le lire. Ce qui est surtout à souligner, qu'en fait, ce récit-là dit rien sur les sentiments d'Abraham. Donc, on dit simplement Abraham se lève tôt le matin. Qu'est-ce qu'il pense ? Est-ce qu'il négocie pas ? Il pose aucune question. Et donc, du coup, voilà, vous pouvez le lire en disant quelque part, Abraham savait que Dieu n'allait jamais faire ça. Mmh. Ou vous pouvez dire Abraham pensait que si Dieu le demande, il faut bien que je le fasse. C'est, voilà, les deux interprétations sont ouvertes. Et quand il dit au jeune garçon qui l'accompagne, il va revenir avec Isaac. Donc il dit, moi et mon fils, nous allons sur la montagne prier ou nous prosterner. Et ensuite, nous reviendrons vers vous. Alors, est-ce que c'est un mensonge ? Ou est-ce qu'il sait déjà que finalement, il va se passer autre chose ? Là, de nouveau, vous ne pouvez pas le savoir.
Est-ce que ça n'est pas aussi une façon d'exprimer que nous ne sommes pas des marionnettes et que finalement, l'homme a une part de liberté qui n'est pas un...
Oui, mais qui n'est pas vraiment mise en évidence. Donc oui, là,
pour le coup, là, dans ce texte-là, il n'est pas très
non,
libre.
Mais la réflexion que ça peut
voilà,
entraîner.
La réception
c'est
des choses.
C'est la réception. Moi, je parle de réception, là.
Non, mais effectivement, c'est un texte très étrange, hein, qui est très court, c'est un seul petit chapitre. Et effectivement, il n'y a aucune... mention des états d'âme, ni de psychologie, ni de sentiments. C'est presque burlesque, hein, si on était un peu... Il part, il monte, et il y a le fils qui demande, mais où est l'agneau pour le sacrifice ? Il dit, bah, Dieu, il pourvoira.
Oui,
Dieu, qui est une expression en hébreu un peu plus compliquée, d'ailleurs. Dieu verra. Et il continue, et puis il y a ce... Le sacrifice se met en place et il y a la main, comme ça, de l'ange qui l'arrête. Mais finalement, c'est comme si tout se passait, comme si ce texte était écrit pour nous faire réfléchir.
Voilà, c'est ce que je voulais
vous dire. À ce que ça provoque. C'est comme quand vous regardez un film d'horreur, quoi. Jusqu'où vous allez adhérer à ça, quoi, en quelque sorte. Mais là, c'est un peu ça. C'est le lecteur, c'est une épreuve de lecture aussi. Quand, voilà, tu entends quoi ? Et ce que je dis là, c'est quelque chose de très ancien, puisque même les rabbins, la tradition talmudique s'est interrogée là-dessus. Et même un grand lecteur juif de la Bible au Moyen-Âge, Rashi, souligne que finalement, peut-être que Dieu n'a pas vraiment dit à Abraham « va sacrifier ton fils sur la montagne ». C'est plus subtil que ça. Il a dit « va faire monter la fumée avec... » Alors, est-ce que c'est avec ton fils ou c'est... Donc, et peut-être que justement, la question, et c'est une question qui est posée au lecteur, c'est qu'est-ce qu'on entend quand on lit ça ?
Absolument.
Est-ce qu'on entend la mort ou est-ce qu'on entend autre chose ? Voilà.
Oui,
mais le texte reste vraiment obscur jusqu'à la fin parce que bon, le sacrifice est arrêté, remplacé par un sacrifice animalier. Mais tout à la fin, on dit simplement « Et Abraham revient vers les jeunes gens ». Alors Isaac, il est resté où ? On ne sait pas. Donc on peut dire c'est sous-entendu, mais en même temps, c'est aussi une réflexion peut-être sur une séparation nécessaire entre Abraham et Isaac. Donc il y a aussi quand même un récit de séparation. On n'a pas forcément fait une lecture psychanalytique, mais il y a quand même aussi quelque chose de cet ordre-là.
Une question contemporaine, Frédéric Boyer, là je me tourne vers vous. Bah, on peut se dire aussi, c'est pareil, là, c'est la réflexion que ça peut susciter. Hein. C'est de ne pas tomber effectivement dans une forme d'idolâtrie du texte. Et aussi, également, c'est une sorte de prévention, si je puis dire, à l'égard du radicalisme, non ?
Là, vous en posez des questions, oui. Non, mais oui, c'est-à-dire que de toute façon, on voit bien avec cet exemple qu'on ne peut pas lire, comme on dit littéralement, un texte.
Impossible.
Qu'on ne peut pas se contenter d'une lecture. Parce que, en fait, si vous faites ça, vous n'y comprenez rien, de toute façon. Donc, parce que est-ce qu'il a voulu le tuer ou pas ? Est-ce que Dieu a vraiment dit ça ? Donc, il faut écouter ce que comment le texte progresse, comment il est monté. Il faut écouter les contradictions du texte. Et là, ça devient vraiment passionnant, parce que là se posent plein de questions et qui s'adressent encore à nous, effectivement, sur notre rapport à la violence, sur notre rapport à la parole de violence. C'est pour ça que c'est assez intéressant de savoir effectivement qu'est-ce qu'on entend. Quand on entend cette parole, est-ce qu'on entend « va tuer » ou est-ce qu'on entend « va adorer » par exemple ? Voilà, c'est deux possibilités.
Ou « par ne fait rien » quoi.
Mais aussi, mais de façon plus... ce qui est vraiment passionnant, c'est aussi que c'est un texte complexe en même temps, parce que je pense qu'historiquement, il traverse plein de choses. D'abord, une vieille référence qui avait, à mon avis, qui était toujours latente, même à l'époque de rédaction d'un texte comme ça, qui était le sacrifice des enfants dans les cultes. Ça a existé assez longtemps. Et cette question-là, elle est quand même posée. Là, donc c'est des questions comme ça. Et effectivement, comme l'a très bien dit Thomas aussi, cette question, c'est pas faire une lecture psychanalytique, mais de distinction entre le père et le successeur et le fils. Il faut savoir que c'est des traditions différentes. Il fallait à la fois les réunir et puis en même temps expliquer pourquoi, à un moment donné, ça, c'est des questions passionnantes quant à l'histoire et à l'écriture.
Parce que si on le met un contexte historique, c'est comme disait Frédéric, il y avait une réalité de ce qu'on appelle le sacrifice humain. Et il y avait des sacrifices humains qui étaient offerts aussi au Dieu d'Israël. Et d'une certaine manière, vous pouvez aussi lire ce récit comme un récit de passage du sacrifice humain au sacrifice animalier. En disant, Dieu a voulu tester la foi d'Abraham, d'où cette idée du sacrifice humain. Mais en fin de compte, ce que veut Dieu, c'est les sacrifices animaliers. Parce que, je pense, c'était tellement enraciné même dans les coutumes qu'on ne pouvait pas simplement dire « c'est interdire d'offrir des sacrifices humains ». Donc, il fallait être un peu plus subtil en racontant, par exemple, cette histoire. Ou dans le livre du prophète Ézéchiel, il y a en effet un texte très, très bizarre où on se plaint d'Israël. Et Dieu dit « je vous ai donné des lois qui ne sont pas bonnes, des lois qui ne font pas vivre ». C'est le seul texte dans toute la Bible où on dit que Dieu a donné des lois qui sont mauvaises. Et quelles sont ces lois mauvaises ? Justement, les sacrifices humains. Donc ça veut dire, en fait, les rédacteurs, à la fin de l'histoire d'Abraham, de ce texte d'Ézéchiel, ils cherchent à trouver un moyen pour dire aux gens, traditionnellement, vous référez ça à une loi qui vient du Yahvé, du Dieu d'Israël, mais en fin de compte, ce n'est pas ce que Dieu veut. Donc il y a aussi cet aspect-là, je pense, qui joue un rôle important dans ce récit.
Une rédaction intentionnelle.
Ah, tout à fait, oui.
Suivons Thomas Remer et Frédéric Boyer à cette lecture de votre livre « Une Bible, peut-on cacher une autre ? Le conflit des récits ». Alors, nous poursuivons avec Moïse. Et vous dites que finalement, Moïse, il occupe toute la place dans la Torah, quasiment toute la place.
Oui, on peut dire que c'est un peu, certains l'ont dit, la Torah, le Pentateuque, c'est la biographie de Moïse. Parce qu'au début du livre l'Exode, on raconte sa naissance, compliquée. Et puis, au dernier chapitre du Pentateuque, chapitre 34 du livre de Deutéronome, on raconte sa mort.
À 120 ans, exactement.
Donc, on construit un peu trois générations à 40 ans. Et puis, du coup, la Genèse, dans la construction finale, c'est une sorte de prologue, en fait, à l'histoire de Moïse. Bien que, à l'origine, comme le disait Frédéric, c'est des traditions différentes. Mais Moïse est vraiment la figure centrale, ça c'est sûr. C'est aussi lui qui va, en effet, recevoir toute la loi. Tout passe par lui. Abraham ne reçoit pas de loi, ni les rois qui vont venir après. Donc c'est Moïse qui est vraiment le médiateur par excellence.
Oui, Frédéric Boyer, donc non, Moïse.
Et puis toute la tradition biblique occidentale, pas qu'occidentale d'ailleurs, va faire de Moïse l'auteur de la Torah. On va considérer jusque finalement assez tard que, encore au XVIe siècle, il y avait pas mal de gens qui effectivement faisait de Moïse celui qui a écrit la Bible, en fait. Enfin, en tout cas, le Pentateuque. C'est un des premiers à dire, à mettre en doute ça, ça va être Spinoza. Et puis après, ça veut dire... Mais donc, c'est pour dire que voilà, c'est une figure très, très importante, effectivement. Oui.
Alors, le Dieu révélé à Moïse, c'est un Dieu différent de celui révélé à Abraham.
C'est-à-dire, c'est une autre expérience qu'on raconte, voilà. D'abord parce qu'on est dans on est devant un autre souci, voilà.
Alors on en est où à ce moment-là?
On en est où?
Il y a l'exode.
Oui, voilà. Non, on est au cœur d'une histoire qui est une histoire de libération et de distinction et de formation d'un peuple. Et ce peuple, il va se former aussi en traversant une épreuve. Tout ça, c'est des schémas et des figures qu'on retrouve dans les grandes narrations mythologiques ou légendaires de l'humanité. Hein. C'est-à-dire qu'un peuple va se constituer en traversant une série d'épreuves et tout ça. Bon, donc là, il faut raconter ce récit-là et aussi embrayer sur quelque chose qui était un peu compliqué, en tout cas dans la constitution du texte de l'ensemble biblique. C'est qu'on a quitté la Genèse sur un personnage un peu étrange, finalement, qui est Joseph, qui, lui, a réussi à vivre de façon heureuse et avec beaucoup de succès en Égypte, c'est-à-dire en diaspora, en terre étrangère. Voilà. Donc l'exode s'ouvre, parce que c'est des questions de narration aussi, hein, comme dans une série. Hein, l'exode s'ouvre et on a le peuple hébreu en Égypte, mais là, soudainement, le peuple, ça va mal, ça, il est en esclavage, il doit travailler. Le pharaon, qui était plutôt sympathique avant et très proche de Joseph, est maintenant un pharaon abominable. Et donc on s'engage un récit sur cette oppression et cette libération.
Si on revient à Dieu, en effet, il y a cette idée que Moïse va être celui à qui on révèle le vrai nom de Dieu, qui est, bon, Yahvé, Jéhovah, on l'a prononcé de toutes sortes de manières, on ne sait pas très très bien. Le judaïsme a décidé de ne plus prononcer ce nom, donc du coup, on ne sait pas très bien quelle était la prononciation originelle. Mais c'est très intéressant, il y a un courant d'auteurs ou de rédacteurs, qu'on appelle parfois les prêtres ou les sacerdotaux, qui vont construire une sorte de révélation progressive du nom divin. Parce qu'on l'a dit au début, bah, c'est Elohim. C'est un dieu des dieux, dans l'histoire des origines, Dieu apparaît comme Elohim. Après, chez Abraham, c'est le dieu des nomades, le dieu des champs.
Dieu agraire.
Et puis
oui.
Voilà, un dieu agraire, un peu des petits paysans, des petits éleveurs. Et à Moïse, Dieu va dire, c'est moi Yahvé. Mais sur mon nom de Yahvé, je ne me suis pas présenté à Abraham. À Abraham, je me suis présenté comme le El Shaddai. Donc c'est comme si une sorte de succession de révélations, Elohim, El Shaddai, Yahvé. Mais en même temps, ça veut dire aussi que pour ces auteurs-là, il y a ce que certains appellent un monothéisme inclusif. C'est-à-dire, peu importe qu'on parle d'Elohim, de El Shaddai, finalement, c'est toujours le même Dieu. Et le seul avantage, le seul privilège d'Israël, via Moïse, c'est de connaître le vrai nom de Dieu qui est Yahvé, mais que le judaïsme va ensuite très vite abuser en ne le prononçant plus. Donc là, vous avez une idée, en fait, qu'au niveau religieux, il n'y a pas besoin de se faire la guerre parce que vous parlez d'Elohim, vous parlez d'El Shaddai, nous, on parle de Yahvé, mais finalement, bon, ce n'est pas si important. Donc il n'y a pas cette opposition qu'on peut trouver dans d'autres livres où, en effet, on oppose le Dieu d'Israël aux autres dieux et puis en appelant à la ségrégation, etc.
Est-ce que vous avez relevé des contradictions précisément dans les récits sur Moïse? Puisque, bon, il s'agit bien d'un livre avec sous-titre Le conflit des récits.
Ah oui, il y a des conflits de récits. Il y a par exemple les plaies d'Égypte.
Oui.
Donc là, c'est très curieux parce que donc, on connaît l'histoire. Pharaon qui ne veut pas écouter. Donc Dieu, via Moïse et Aaron, fait venir toutes sortes de plaies, les unes plus horribles que les autres. Et puis, il y a des textes où dit « Et Pharaon s'obstina encore ». Davantage. Donc c'est lui, en fait, qui régit ses propres décisions. Et puis il y a d'autres textes où il dit « c'est Dieu qui endurcit le cœur de Pharaon ». Donc il y a à la fois l'idée du libre arbitre et de la responsabilité pour les malheurs qui vous arrivent. Et de l'autre côté, Dieu décide de ce qu'il veut, il est souverain, et puis même Pharaon n'a aucun pouvoir. Donc il y a quand même deux lectures assez différentes.
Non, oui.
Frédéric Boyer, oui.
Il y a aussi cette grande question de l'entrée dans la terre promise, quand même. C'est lui le héros. C'est lui qui reçoit les tables, c'est lui qui reçoit la loi, c'est lui qui guide le peuple dans le désert. D'ailleurs, il a un peu de mal, hein, parce que très vite, le peuple commence à dire « mais qu'est-ce qu'on fout là ? On aurait peut-être, mieux resté en Égypte. Hein. » Bon, mais... Et il y a pas mal de ratés, d'ailleurs, hein, dans cette traversée, dans cette, ne serait-ce que même l'épisode du veau d'or. Il y a plein de choses qui ne marchent pas, mais on progresse. Et lui n'entrera pas en terre promise.
Pourquoi, justement ? Ah, là, Thomas votre interprétation.
Grande question.
Pourquoi ne pas l'avoir fait entrer en terre promise ?
Il y a au moins trois explications. Il y a au moins trois explications. Ce qui montre, c'est un peu aussi notre idée de montrer aux lecteurs et lectrices que le récit biblique ne donne pas forcément une réponse. Donc,
c'est jamais univoque, oui.
Alors, au début du Deutéronome, Moïse fait un grand discours juste avant de mourir. Il est assez bavard, hein, parce que le discours dure quand même 30 chapitres. Donc, c'est assez long comme discours d'adieu, mais enfin, il le fait. Et il dit au début, voilà, écoutez, le fait que je vais mourir maintenant, c'est parce que vous êtes révoltés et vous n'avez pas voulu conquérir le pays. Donc, c'est pour cela que la première génération a été condamnée à mourir dans le désert. Et Moïse, en fait, porte un peu une solidarité. Il est le chef du peuple, il va mourir parce que le peuple aussi a fauté. Et dans le livre des Nombres, qui est le livre qui précède, il y a un ordre très bizarre de Dieu. Le peuple, une fois de plus, se plaint. Et puis Dieu dit à Moïse, bah, prends ton bâton et parle au rocher. Le rocher va donner de l'eau. Mais alors Moïse prend le bâton, il frappe le rocher, il parle au peuple en les engueulant. Et curieusement, Dieu n'est pas du tout content avec ça. Et il dit, parce que toi donc, et Aaron, ton frère, vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas eu foi en moi. C'est pour cela que vous allez mourir avant d'entrer dans le pays. Donc là, on cherche en fait une sorte de responsabilité individuelle de Moïse, de Aaron. Et à la fin de Deutéronome 34, on ne sait pas, c'est la décision de Dieu qui veut que Moïse n'entre pas dans le pays. Donc vous avez au moins trois visions pourquoi Moïse n'entre pas dans le pays.
C'est aussi parce qu'après, alors ça, dans la pure... si on regarde juste comment les textes sont agencés, c'est-à-dire qu'après cette histoire-là, on va raconter un tout autre récit, non plus d'entrée dans la terre, comme ça, après une longue épreuve, mais un récit de conquête guerrière violente.
Alors,
donc il faut bien, il fallait peut-être bien, tout simplement, d'un point de vue narratif, distinguer ça, et peut-être, ne pas mettre Moïse dans cette situation-là de violence, de guerre, je ne sais pas. C'était peut-être une autre tradition, en tout cas. Peut-être.
Le tenir à l'extérieur.
Ouais, c'est intéressant parce que si vous regardez certains psaumes ou d'autres textes, on a l'impression que Moïse a fait entrer le peuple dans le pays. Donc ça montre qu'il y avait certainement des traditions différentes. Il y avait sans doute, et on le trouve aussi après chez les auteurs juifs du 3e, 2e siècle avant l'ère chrétienne, cette idée que c'est Moïse qui le fait entrer. Donc je pense qu'il y avait plusieurs options. Le fait que Moïse meure avant l'entrée dans le pays et que la Torah, le Pentateuque se termine ainsi, c'est assez curieux d'une certaine manière, parce qu'on va dire les promesses sont pas accomplis parce que Moïse va mourir, il peut regarder le pays, mais il n'y entre pas, et même son tombeau, personne ne le connaît, et il est en effet enterré par Dieu.
Et sans descendant direct.
Voilà. Il a un fils ou deux fils, mais qui se perd un peu dans la nature.
Alors, c'est vrai. Précisément, la question de la terre, bon, question fondamentale, je me tourne vers vous, Frédéric Boyer.
Non, mais bien sûr.
Parce que Abraham, Dieu ne lui avait pas vraiment... Il avait promis une terre, mais pas de la même façon, pas comme il l'a fait à Moïse.
Alors, comme l'a très bien dit Thomas, c'est un serment, plus qu'une promesse. Mais
voilà.
Du coup, ça va. Non, mais si, parce que c'est intéressant, parce que Dieu fait serment, et donc c'est un serment entre eux, effectivement, qu'Abraham et toute sa descendance, c'est-à-dire pas simplement une certaine descendance, mais toute la descendance, que ce soit
la descendance
d'Ismaël, arabe, toute cette descendance-là aura cette terre. Bon. Et. Le récit de la Genèse fait bel et bien entrer Abraham en terre promise avec ce chapitre 12 de la Genèse assez drôle finalement, si on peut dire, parce qu'il rentre immédiatement, c'est la famine, donc il ne peut pas y rester, il s'en va. Après, il va revenir, mais il parcourra cette terre sans jamais la posséder, puisque même lorsqu'il voudra enterrer Sarah et avoir un tombeau, il faudra qu'il demande à ceux qui habitent déjà dans ce pays, comme c'est dit dès le chapitre 12, d'avoir le droit de posséder un tombeau et... Thomas, là encore, fait remarquer que le mot employé, on va pas le donner là, mais ne signifie pas vraiment posséder, mais c'est une sorte d'usufruit, quoi. Voilà. Donc on voit qu'il est dans la terre promise, mais il ne la possède pas. En tout cas, et il est avec les autres. Et c'est dit à longueur de temps, puisque dès le chapitre 12, on dit les Cananéens sont déjà là dans ce pays. Et ensuite, Abraham passe son temps à discuter avec les uns et les autres. Hein.
Il est pas... Oui, et il n'y a pas d'idée qu'ils doivent être expulsés. Voilà. Il faut cohabiter. Et c'est une vision très, très différente de ce qu'on trouve après. Déjà, dans le Deutéronome, ça commence en disant « Lorsque vous serez entrés dans le pays, vous allez, en effet, massacrer tous les autres peuples, etc. » Donc, on a là un discours, évidemment, très, très différent.
La question, c'est le Deutéronome.
Bah, le Deutéronome prépare, en fait, déjà, disons, au moins des parties du Deutéronome prépare le livre de Josué. Et c'est pour cela qu'on s'est toujours posé la question, est-ce que la Torah, la première partie de la Bible, est-ce qu'elle se termine avec le Deutéronome? Ou est-ce qu'il se termine avec le livre de Josué? Donc on n'aura pas eu un penta, un 5, un pentateuque, mais un hexa, 6, un hexateuque. Et certains voulaient sans doute avoir ça. Vous voulez montrer que Dieu accomplit ses promesses, même si c'est d'une manière extrêmement violente. Et ça, c'est préparé un peu dans certains textes du Deutéronome, qui étaient sans doute rédigés par ceux qui voulaient un hexateuque, en fait. Et ça change tout, évidemment. Ça change tout.
Il y a une vision d'ouverture et une vision
exclusive. C'est-à-dire, si vous avez un hexateuque, tout est la terre. C'est-à-dire la terre promise, la terre conquise. Mm-hmm. Hein? Mais si on regarde ce qui est advenu aux Judéens après l'exil, lorsque les Perses sont venus, ils ont certes permis que certains rentrent dans le pays, mais beaucoup sont restés à Babylone. D'autres s'étaient installés en Égypte. Et donc, du coup, la question se pose, est-ce que l'identité de ce que va devenir le judaïsme, repose sur la possession du pays ou sur la Torah, c'est-à-dire Moïse et la Torah, la loi. Moïse symbolise d'une certaine manière cette vie en diaspora, la possibilité d'être ailleurs et quand même être en relation avec Dieu. Donc en fait, le pays devient en quelque sorte secondaire, on ne nie pas, mais ce n'est pas une obligation d'être dans le pays, puisque Moïse lui-même est mort en dehors du pays.
C'est une grande question, mais on voit que c'est intéressant.
C'est une question géopolitique, évidemment.
Oui. Non, mais bien sûr. Mais même à l'époque. Mais
à l'époque, déjà, c'était comme ça.
Non, mais on voit qu'à l'époque, c'était.
Je ne sais pas si on peut dire.
Oui, en tout cas. Et qu'effectivement, ce qui est intéressant, c'est ces traditions. Tous ces livres bibliques se sont constitués, ont été rassemblés, ont été compilés, effectivement, dans des cultures de diaspora. Donc. Ça se sent sur la constitution même et l'ordre des livres, tel que le dit Thomas. Et il fallait bien, c'est vrai que je dis c'est aussi géopolitique à l'époque, il fallait bien préserver ces communautés qui vivaient en Perse ou en Mésopotamie ou en Grèce. Il fallait bien qu'elles aient un récit pour elles qui ne soit pas simplement le récit d'une conquête qui était de fait impossible. Voilà. Et en même temps, il a fallu effectivement raconter aussi le retour. Et c'est à partir de là qu'on va raconter des récits de conquête de la Terre. Et ces traditions, alors c'est ce qu'on dit au début de l'émission, c'est-à-dire ces traditions, elles ne se sont pas effacées, elles ne se sont pas annulées, elles ont été conservées, parfois avec des raccords plus ou moins visibles, et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire, vous avez un récit de conquête de la terre, violent, militaire, bon, on pourrait y revenir dessus, on n'a pas le temps, je pense, très étrange aussi, d'ailleurs, comme récit, mais quand même, c'est le livre de Josué, tout ça est préparé, effectivement, par une certaine théologie dans l'Exode, dans le Deutéronome, et puis, mais vous avez aussi tout un récit, toute une tradition qui fait une sorte de cohabitation et qui fait d'Abraham une espèce de foyer plutôt de cohabitation et de rassemblement. Voilà. Mais l'un et l'autre, est-ce que l'un et l'autre tient ? Est-ce que l'un et l'autre est bon ? La Bible a l'air de dire il faut que ça coexiste, ces deux traditions. Voilà. Alors c'est un peu notre problème aussi aujourd'hui. Oui.
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, effectivement, ça sera, j'allais dire, la conclusion, qu'Abraham est présenté comme le père des nations, la figure effectivement qui rassemble.
Oui, Abraham, c'est un peu la réponse à la tour de Babel où l'humanité est dispersée. Et puis avec Abraham, il y a cette idée qu'on peut se retrouver autour de la bénédiction d'Abraham qui concerne en fait tous les peuples de la terre. Et ensuite, vous avez cette idée qu'on peut se retrouver, mais en même temps, chacun est différent. Et donc, on est toujours un peu entre universalisme et ségrégation. Et je crois que c'est un peu aussi ce qui est compliqué pour l'identité humaine. D'un côté, on veut tous se retrouver. En même temps, on a aussi chacun ses spécificités. Et je crois que la Torah, c'est un peu ça aussi.
Donc votre livre est tout à fait contemporain. J'en rappelle le titre « Une Bible peut en cacher une autre, le conflit des récits ». C'est publié chez Bayard. Merci Thomas Romer. Merci Frédéric Boyer d'avoir été nos invités. Et c'est la fin de Religion du Monde. Geneviève Delru, Ludivine Amado vous donne rendez-vous dimanche prochain et vous adresse leurs meilleurs vœux.
La marche du monde.